Commencer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Et nous sommes pour te donner gloire pour tes provisions éternelles dans lesquelles tu nous as inclus. Des provisions de grâce, des plans merveilleux d'amour et de rédemption. Tu nous as délivrés en effet du jugement et de la crainte. Tu nous as délivrés de la mort et de ses angoisses. En nous plaçant dans le Seigneur Jésus. Et ce soir, nous voulons te donner gloire et louange. Nous voulons élever devant toi les perfections de ton Fils, car il est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur à toujours. Ô Dieu et Père, sonde nos cœurs ce soir par ton Esprit. Nous sommes si petits, et tu es si grand. Nous sommes si faibles et dépendants, et toi si sage et merveilleux. Ô Dieu Père, nous avons soif de toi. Notre âme languit après toi comme une biche après des courants d'eau, pour voir ta gloire. Et pour te connaître dans ton Saint-Temple. Ô Dieu et Père, conduis nos cœurs ce soir dans cette intimité toujours plus grande de l'épouse qui attend son époux, qui va venir la chercher. Seigneur Dieu Père, nous voulons encore te remercier. Parce que dans toute cette chose glorieuse du retour du Seigneur, il y a toujours cette ombre de la croix qui nous fait comprendre à quel prix nous avons été rachetés, qui nous fait entrer toujours plus dans la profondeur de notre perdition, pour que toi, en Christ, doives rompre l'ancienne alliance et effacer la sentence de mort qui était la nôtre à cause de notre désobéissance à ta loi sainte. Mais alors, tu nous as mis au bénéfice de ce sacrifice pour le péché, du sacrifice de toi-même en Jésus-Christ. Un sacrifice sans prix. Le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Ô Dieu et Père, quel amour tu nous as donné. Quel plan incroyable de bonté et de miséricorde, de compassion que le tien. Et ce soir, nos cœurs émus sont là pour te dire, ô Père, nous t'aimons et nous te cherchons. Veux combler nos attentes et nous renouveler une fois de plus par une vision toujours plus précise et toujours plus glorieuse de ce que tu as fait et de ce que tu as dans ton cœur pour l'Église. Merci, ô Dieu et Père, de ces instants. Enflamme nos cœurs, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je pensais avoir deux parties dans la réunion. Une partie aurait été de revoir ce qu'on a fait ce matin, mais je crois qu'on va remettre ça à demain matin. Et puis, on va plonger directement dans notre sujet, le sujet du retour du Seigneur, qui est un sujet, comme on s'en est aperçu hier soir, depuis les années 1990, on n'en parle presque plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement de calculs qui ont été faits, des calculs que nous n'aurions jamais dû faire en premier lieu, parce que personne ne connaît le temps, si ce n'est le Père. Ni le Fils ne connaît le temps de ce moment où il pourra venir nous prendre. Mais, en attendant, il y a comme un assoupissement dans cette vérité merveilleuse que celle du retour du Seigneur. Je me souviens quand j'étais un enfant, en 1948, la nouvelle d'Israël qui venait de commencer là-bas en Palestine, qui avait été reconnue par les Nations Unies, était sans précédent. Mon père était sûr que d'ici 20 ans, le Seigneur serait déjà revenu. Et voilà, mon père est décédé en 1994 et je suis toujours là. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, moi 40 ans plus tard, une génération, n'est-ce pas, le Seigneur va revenir. Et ils avaient même des calculs savants qui étaient publiés à la radio et on écoutait ça. Et moi j'étais très mal à l'aise, comme peut-être plusieurs d'entre vous. Et finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Et ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, il y a eu des calculs ou des prédictions que le Seigneur allait revenir. En fait, déjà dans l'an 1000, on disait après 1000 ans, depuis la naissance du Seigneur, il va revenir. Et on avait toutes sortes de bases théologiques pour dire ces choses-là. Et au cours des années, il y a eu plusieurs groupes de chrétiens ou de gens bien pensants qui ont articulé des dates et qui ont ainsi essayé de prédire quand le Seigneur allait venir. Et vous savez, on n'a pas besoin de dire bien dans la parole pour voir que le Seigneur amène tous les conseils des intelligents à néant. Pourquoi ? Parce que lui seul est la source de la sagesse et de la connaissance. et il va garder cette autorité et ce secret-là. C'est à lui que le mystère de toutes choses, et il est souverain, et il fera comme il pense quand il le veut. Et ça, c'est normal, c'est comme ça que Dieu organise les choses. Il n'a pas de compte à nous rendre, du tout. Ni à la science, ni à la physique, ni à l'anthropologie, il n'a aucun compte à rendre. Il est qui il est, et il dit ce qu'il veut pour le but qu'il veut accomplir. Eh bien, cherchons dans notre Bible quelques passages qui nous parlent de ce retour du Seigneur. Et évidemment, il y en a plusieurs, mais celui qui est peut-être le plus connu, c'est ce grand chapitre de 1 Corinthiens 15. Et nous allons relire tout le développement de cet immense chapitre sur la résurrection et qui finit avec la rédemption de l'Église, n'est-ce pas? Et nous voulons revoir ces doctrines parce qu'il faut bien penser que le retour du Seigneur ne peut pas être isolé du reste. On a trop tendance à mettre la focalisation sur le retour pour l'Église, est-ce qu'il va être avant la tribulation, pendant la tribulation, ou après la tribulation, est-ce qu'il va y avoir un retour pour l'Église, est-ce que nous n'allons pas tout de suite régner avec Christ. Et il y a toutes sortes de doctrines qui sont là. Et voyez-vous, c'est bien de savoir, d'avoir ces indications dans la parole et de les connaître. Mais sachons que nous n'avons qu'une image extrêmement partielle des choses. Et pourquoi est-ce que Dieu nous donne une image partielle? Pour la même raison que Jésus a dit à ses disciples, « Oui, je parle au peuple en parabole, de peur qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. » N'est-ce pas? On se dit, mais ça n'a pas de sens. Le Seigneur était venu là pour convertir le monde. Erreur. Il n'était pas là venu pour convertir le monde. Il était venu pour un autre but. C'est seulement quand le Saint-Esprit est venu qu'il y a eu un ministère d'évangélisation. Avant cela, Jésus était venu pour son peuple, en tant que roi, pour régner sur son peuple. Et c'est seulement lorsqu'il a été rejeté par son peuple que les dons de base ont changé. Mais jusque-là, il était dans sa mission de roi sur la terre. C'était interrompu par son peuple qui l'ayant rejeté, comme on l'a dit. Et c'est pourquoi il parlait au peuple en parabole. Il ne pouvait pas dire plus. Il fallait qu'il garde des mystères. Eh bien, la même chose pour nous. Toutes les vérités du retour du Seigneur, c'est comme si vous voulez une série de fenêtres qui sont dans une immense paroi, de petites fenêtres, et on voit une partie du paysage. Mais on ne peut pas voir l'ensemble du panorama. Et en regardant par une fenêtre et la suivante, on peut se dire, ben, peut-être qu'entre ces deux fenêtres, voilà comment est le territoire. Mais on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Il y a certaines choses que Jésus a dites, et que nous devons évidemment reprendre, qui sont importantes, et qui nous sont données par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes à noter. La première, c'est que Matthieu nous parle beaucoup du royaume, du retour de Christ dans le royaume, comme roi. Luc en fait un certain écho. Marc n'en parle pas beaucoup. Mais c'est seulement l'apôtre Paul qui, lui, à partir de cet épître aux Corinthiens que nous allons lire, qui est peut-être la première épître dans laquelle il fait une déclaration explicite de ce retour du Seigneur, que nous apprenons cette doctrine. Et puis après, dans la première des Thessaloniciens, il en parle. Et après, il le mentionne dans d'autres épîtres, et dans les épîtres en prison. Et Jean, l'évangile de Jean, comme l'Apocalypse, sont deux livres qui ont été écrits bien après que l'apôtre Paul ait été un martyr. N'est-ce pas? L'apôtre Paul est mort dans les années 65. L'apôtre Jean est mort dans les années 90. Et c'est à cette époque qu'il a écrit l'Évangile et l'Apocalypse. Probablement l'Apocalypse d'abord et ensuite l'Évangile, selon les traditions. Donc, il y avait maintenant, à l'époque de Jean, une doctrine du retour du Seigneur qui était bien implantée, qui était connue et qui était véritable, qui était qui était solide. On la connaissait, cette doctrine. Et Jean n'a fait que renforcer cela par ses souvenirs de Jésus, de ce qu'il avait entendu de lui, n'est-ce pas, dans l'Évangile. En plus de ce qu'il a reçu du Saint-Esprit par l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Mais c'est clair que, malgré qu'il y a beaucoup de passages qui parlent du retour du règne du Seigneur sur son peuple, il y en a beaucoup moins qui parlent du retour du Seigneur pour l'Église. C'est comme un mystère caché. Et nous allons lire cela dans le chapitre 15. On va lire tout le chapitre. C'est la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Cephas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avortant. Car je suis, moi, le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Intéressant de voir cette entrée en matière, qu'il y a unité entre tous les apôtres, de ce qui est enseigné et ce qui va être enseigné dans les pages qui suivent, n'est-ce pas? Il y a là une force de frappe qui est très rare dans l'Église, au niveau même de ces hommes. Souvent, on voit plutôt des divergences d'opinion, mais là, on voit un apostolat qui est absolument uni et soudé sur ces doctrines-là. Aussi l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire de dont vous êtes pour moi le sujet, en Christ Jésus notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quels avantages m'en revient-il, si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptible. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés pleins de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Un long chapitre, plein de pensées, plein de doctrines puissantes, fondamentales, mais qu'il fait bon de connaître et de répéter souvent. Pourquoi? Parce que nous voyons les fondements primaires de l'Évangile, et c'est l'Écriture. L'Écriture, selon les Écritures. Toute parole qui n'a pas l'Écriture en elle n'est pas une parole salée. Et on parlait justement de sel hier soir, et combien il est important aujourd'hui, puisque nous serons jugés pour toute parole que nous avons prononcée, qu'elle soit trouvée, assaisonnée de sel, le sel de la parole. Et c'est cela qui fait bouger les choses. Ce n'est pas tellement les autorités ou les philosophies ou les études ou ces choses-là. Tout ça, c'est un courant de choses qui a toujours été, qui change, qui va dans un côté, qui va dans un autre, qui revient au même côté. Et tout reste dans les limites qu'on peut dire humanistiques. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle nous projette là, dans la présence même de Dieu. C'est lui qui parle. Et bien entendu, la grande thèse de ce chapitre, ça a été la résurrection. Il y avait à cette époque, et comme il y a encore maintenant, des gens qui disent que la résurrection a déjà eu lieu et qu'elle n'aura pas lieu, que c'est inutile d'attendre Jésus-Christ, que c'est une perte de temps que de s'imaginer que le Seigneur va revenir. Allez sur la grande place à Magog, parlez aux touristes qui sont là-bas que le Seigneur va venir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous fuir. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour les vacances. Ils ne viennent pas pour parler de Jésus. En fait, parler de Jésus pour eux, ça les ennuie, ça les embarrasse. La plupart d'entre eux, n'est-ce pas? Ça les choque. Distribuer des traités là-bas, ça ne leur fait pas plaisir. Parce qu'ils viennent là-bas pour se reposer et pour oublier le fardeau de leur vie de tous les jours. Et si on va vers eux et qu'on leur donne quelque chose qui soit spirituellement valable et surtout qui les interpelle, ça ne les rend pas heureux. Et ça, c'est clair. Parce que notre message n'est pas un message de vie à ceux qui périssent, mais un message de mort. Or, la mort, personne n'aime en parler. Ça, c'est clair. Vous avez déjà vu dans votre endroit de travail, peut-être, ou dans votre expérience, que sitôt que vous mentionnez le mot de mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelqu'un qui va toucher du bois. Vous avez remarqué ça? Enfin, aux États-Unis, c'est très fréquent comme ça. On parle de mort, quelqu'un va toucher du bois. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je touche du bois, eh bien, je touche à la même matière que la croix, et alors Dieu me regarde favorablement. Parce que quand on parle de la mort, pour eux, c'est un mot de condamnation, un mot de malédiction, un mot de... Oui, enfin, un mot qui les rend très inconfortables. Alors, ils touchent du bois. C'est l'idolâtrie, rien d'autre que ça. Pourquoi? Est-ce que le bois peut nous sauver? Non. Est-ce que la croix peut nous sauver? Non. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est notre sauveur en croix. N'est-ce pas? Alors, regardons à Christ. C'est lui notre sauveur. C'est lui le sauveur de l'homme, le sauveur de l'humanité. Et pour faire cela, il a fallu, comme on l'a vu ce matin, que l'ancienne alliance soit terminée. Or, cette alliance, elle était entre Israël et Dieu. Et c'était une alliance qui contenait la loi, n'est-ce pas? Les 10 commandements. Et cette alliance était là écrite, probablement 2 exemplaires, dans l'Arche de l'Alliance. 2 copies, une pour l'homme, une pour Dieu. On fait comme ça aujourd'hui, hein? On fait un contrat, il y a d'habitude 3 copies, il n'y en a qu'une pour l'avocat. Mais il y en avait 2. Et c'était Dieu qui les avait faites, qui les avait écrites lui-même. Donc on pouvait avoir confiance que c'était juste. Et c'était des copies, elles pouvaient être vérifiées. Bon. Une alliance se termine par la mort d'un des partis. Il fallait qu'un des partis meure, n'est-ce pas, pour que l'alliance soit terminée. Ou c'était Israël, ou c'était Dieu. Mais personne ne pouvait s'imaginer que Dieu allait mourir. Et pour ça, Israël était très conscient de la chose. Et ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est pourquoi il n'était pas devenu souverain dans le monde. parce qu'après tout, ils avaient un contrat avec Dieu. Et leur misère, leur difficulté, leur lutte continuelle les décourageait. Ils disaient, notre Dieu, il n'est pas puissant. Notre Dieu, il ne tient pas sa partie du contrat. Alors peut-être qu'il nous faut penser à chercher un autre Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a eu en Israël toujours une énorme tendance à l'idolâtrie et à chercher d'autres dieux en plus du Dieu des cieux. Non pas en oubliant le Dieu de leur alliance. Non, ça, ils ne voulaient pas l'oublier. Juste en cas. Mais si vous voulez, ils ont rapidement fait du Dieu d'Israël, du Jéhovah Dieu, ils en ont fait une roue de secours. Plutôt que de leur faire le grand Dieu des cieux est le seul. Et ça, c'est clair, quand on lit Ésaïe, on se rend bien compte qu'il y a deux parties dans la prédiction d'Ésaïe. Il y a la partie de malédiction qui dénonce le péché, qui le montre, qui l'explique, et puis il y a l'autre, voilà les promesses du grand Dieu de l'Alliance. Alors, mes frères, changez complètement. Retournez vos cœurs, revenez vers lui. Même chose avec Jérémie, même chose avec Daniel, même chose avec tous ces prophètes. Revenez vers le Seigneur et il vous élèvera. Mais ils ne sont pas retournés au Seigneur. Ils sont retournés à la loi. Et la loi est devenue leur Dieu. Et quand on a un Dieu qui est inférieur à Dieu, eh bien, on récolte les récompenses de ce Dieu. Et alors, de voyants, ils sont devenus aveugles, et de là, encore plus aveugles. De telle sorte que, quand on parlait de résurrection, qui est pourtant une doctrine extrêmement biblique, dès l'Ancien Testament, c'est clair. Par exemple, déjà dans la Genèse, on parle de résurrection. Eh bien, il y avait deux camps. Il y avait le camp des pharisiens, qui y croyaient, le camp des sadducéens, qui n'y croyaient pas, et puis le peuple regardait ce match de boxe. Puis on dira, on va voir qui gagne. Quand Christ est venu, il était celui qui allait rompre l'ancienne alliance. Il fallait qu'il meure pour que l'ancienne alliance soit annulée. Et c'est pour ça que la mort de Christ était nécessaire. Maintenant, il y a des églises aujourd'hui qui disent, non, Christ n'est pas mort. Il était presque mort. Et il n'est pas ressuscité. En fait, il s'est guéri. Rapidement, mais il s'est guéri. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il est mort trop vite. Il n'était pas mort. C'était du théâtre. Alors que c'est clair qu'il était mort. C'est bien sûr. On ne reçoit pas une lance dans le cœur. On n'a pas de l'eau et du sang qui sortent du cœur. Sans mourir. Il est mort d'une congestion cardiaque. Eh bien, notre Seigneur a été enseveli dans ce tombeau et il est ressuscité. Maintenant, la parole qui a été répandue juste après, c'est c'est sans ses disciples qui sont venus le voler. Et vous savez, peu avant ces événements, le Seigneur disait clairement, et ça c'était dans le chapitre 12 de Luc, il disait, il n'y a rien de caché qu'il ne sera publié sur les toits. Vous vous rappelez de cette parole dans l'Évangile? Ben moi je l'attends toujours, cette parole. On n'a pas encore vu ce qui a été caché. Pour le moment, la résurrection, tiens. Il y a une trentaine d'années, on avait un président aux États-Unis qui avait, dans sa campagne, fait quelque chose qui n'était pas droit. Il avait un groupe qui avait volé des documents. Et il leur avait dit, ne parlez pas de ce vol. On va enterrer la chose et on ne va jamais en parler. Et c'est ce qu'on avait appelé Watergate. Vous vous rappelez? Vous savez combien de temps le secret a tenu? 16 jours. 16 jours, c'est tout ce qu'il a tenu. Et il y avait seulement une demi-douzaine de types dans l'histoire. Mais pas beaucoup. Imaginez-vous On a vu dans ce chapitre plus de 500 personnes. Il n'y en a pas une qui a démenti la résurrection. On ne peut pas faire tenir 500 personnes à 500 personnes un mensonge. Ce n'est pas possible. Même dans la religion des Mormons, il y avait 3 personnes qui ont vu ce livre, soi-disant, et ces tablettes d'or. Hein? Il y en a une qui est morte de démence, de folie. La deuxième s'est désistée, et il y avait seulement Joseph Smith qui tenait encore pour la vérité de cette chose. Jusqu'au bout. Et avec ça encore, aujourd'hui, regardez cette religion, comme elle prend dans le monde. Et tout le monde croit dur comme fer, qui a eu ses tablettes et tout ce qui était dessus. Et nous avons des centaines de témoins de la résurrection. Elle tient debout, cette résurrection. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais attention. OK, on a une résurrection. On accepte la résurrection. On va jusque-là. Maintenant, attention, on va plus loin. Il y a maintenant ascension. Jésus est remonté au ciel. Et puis de nouveau, les anges qui disent que tel qu'il est remonté au ciel, il reviendra de la même manière. C'est une histoire d'anges, de nouveau, à une douzaine de personnes sur le mont des Oliviers. Est-ce qu'on croit ça? Bon, ben, on n'a pas vu Jésus-Christ depuis. Hein? Donc, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Autre chose. Maintenant, il va revenir. Il va revenir chercher l'Église. Ça devient de plus en plus... Vous voyez, ce plan logique humain, ça devient de plus en plus bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, il avait exactement cela parmi ses Corinthiens. Déjà à Athènes, il avait eu pas mal de difficultés sur l'aéropage de convaincre ses philosophes qu'il y avait résurrection. Enfin, on se moquait de lui. On lui disait, oh, ce fou, il ne fait que de bavarder. Et il y a eu un résultat, mais peu de choses. Hein. Il y avait l'aéropagite qui avait cru. Toute petite église là-bas à Athènes. Mais à Corinthe, il est resté longtemps et il est arrivé à convaincre un certain nombre de personnes que vraiment Christ était ressuscité et que c'était vraiment le grand Dieu des cieux et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Mais vous savez, c'était aussi culturellement une énorme distance pour ces gens, ces Grecs, à couvrir pour arriver à entrer dans une culture juive, dans une prophétie juive et arriver finalement à comprendre qu'ils avaient un sauveur qui les aimait. Mais ils se sont convertis par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ils ont reçu leur don spirituel et ils étaient très embarqués dans ces dons spirituels. Pour eux, c'était la chose. Et l'apôtre Paul tâche d'élever ses frères et ses sœurs de leur don spirituel dont ils étaient très fiers. Il leur a dit, mais rappelez-vous, toutes ces choses, elles sont temporelles. Il y a un moment où nous allons tous mourir. Nous sommes tous de passage. Comme on l'a vu ce matin, on est tous des pèlerins. On avance dans ce désert pour un petit moment. Et puis après, nous partons. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Souvent, quand on fait un prêche lors d'un funérailles, on pense à ce passage. Et on aime bien l'idée de la résurrection. Mais quand on vient à l'idée du retour du Seigneur qui vient chercher les siens, ça, c'est autre chose. Parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a là un mystère, à savoir, est-ce que je suis une de ces personnes qui va être transformée, qui va recevoir ce corps glorieux? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je le sais? Est-ce que j'en suis convaincu? Et ce soir, je parle à chacun d'entre vous. Vous savez, il y a des fois des personnes qui ont toujours été dans une église, qui ont toujours suivi une certaine connaissance biblique pendant des années et qui se sentent bien dans cette connaissance biblique, mais qui n'ont jamais vraiment fait ce pas. Vous pouvez tous me dire la date de votre naissance. Ça, j'en suis sûr que vous la savez. Il y a eu un moment, un jour, où vous êtes né. Ça ne prend pas terriblement longtemps pour être né, mais une fois que l'enfant est hors de sa mère, c'est le moment où il est né, n'est-ce pas? Eh bien, être né de nouveau, c'est la même chose. Et il y a des fois des chrétiens qui me disent, « Ah, mais tu sais, dans mon cas, ça a été très progressif, je ne peux pas dire quand, je ne peux pas dire que vraiment il y a eu un moment où, etc. » J'ai toujours une certaine crainte dans cette déclaration-là. Pourquoi? Parce que il y a un moment où j'étais mort et maintenant je suis vivant. Il y a un moment où j'étais dans les ténèbres et maintenant je suis dans la lumière. Il y a un moment où j'étais j'étais sous l'égide de Satan et maintenant je suis sous l'égide de Christ. N'est-ce pas? Il y a un changement, il y a une transformation. Il y a un moment où j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. Il n'y a pas des étapes intermédiaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être il y a une compréhension qui n'est pas complète, mais il y a quand même un moment où j'étais perdu et un moment où j'étais retrouvé. Et vous savez, quand on ne peut pas avoir ce moment dans son histoire, c'est difficile, après dans sa foi. On a des luttes. On a des luttes, on n'est pas très certain. Et ce soir, puisqu'on parle de ces passages et qu'on parle de la résurrection et qu'on parle du retour du Seigneur, vous savez, on ne parle pas de petites choses, là. C'est votre vie éternelle, c'est votre éternité dont on parle. C'est sérieux, très sérieux business. Je vais vous raconter la conversion de mon père. Mon père a grandi dans une famille chrétienne. Et l'évangile était prêché, sans aucun doute, il savait. Et un jour, il y avait un frère qui est venu prêcher sur le retour du Seigneur Jésus. Et il avait entendu ce dimanche-là, ce prêche, et puis il savait que ce frère allait de nouveau prêcher le mardi soir. Et il était trop jeune, selon ses parents, pour aller écouter le mardi soir, parce qu'il devait aller à l'école le jour après, et son père était assez malade, il ne pouvait pas non plus aller à l'église. Et bon, mon père attendait son frère qui devait retourner de la réunion. Mais voilà que le prêche avait duré longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on lui avait assigné. Mais enfin, c'était un frère d'une assez grande réputation, alors bon, fermez les yeux, tout simplement. Et mon père, il se disait, tiens, mais c'est 9h15, il devrait être là. 9h20 qui passe, personne. 9h30 qui arrive, personne. Alors mon père a commencé à avoir peur. Il s'est dit, c'est possible que le Seigneur soit venu et que je l'ai été laissé derrière. 9h40, personne. 9h45, personne. 10h05, personne. Mais vous savez, dans l'assemblée où j'étais, la réunion en Suisse commence à 8h, au coup de 8h, finit au coup de 9h. Et après, tout le monde part. Comment à 10h, c'est-il possible que cette réunion soit toujours là? Alors, mon père s'est levé, petit garçon qu'il était, il est descendu l'escalier, tout doucement sur la pointe des pieds, pour aller voir si son père était toujours en bas. Et puis, tout d'un coup, il a entendu... Il savait que son père était là. Il s'est dit, au moins, lui, il est là. Et le Seigneur n'est pas encore revenu. Et vous savez, ça vous apparaît très simple et enfantin, mais vous savez, de cette expérience est né un très grand évangéliste. Un homme qui a été utilisé par Dieu pour amener des milliers d'âmes à Christ. Et je vous raconte ça parce que pour lui, le retour du Seigneur a été une chose absolument réelle, véridique. Elle était là. Et il s'est senti perdu, pécheur, et il s'est senti vraiment loin de Dieu. Et il n'y avait pas de discussion. Il fallait qu'il revienne à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il accepte Jésus comme son sauveur. Et ça s'est fait dans les 24 heures qui ont suivi. Et de là, il n'y a jamais eu de doute. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, une date, il pouvait mettre le doigt dessus et dire, voilà, ce soir-là, ou ce jour-là, j'ai compris exactement de quoi j'ai été sauvé. Et j'aimerais vous inviter, à vous tous, ici, qui n'avez pas eu ce moment, ou disons, vous n'avez pas pointé ce jour, ou ce moment où vous avez passé de la mort à la vie, même si, selon votre sentiment, vous êtes chrétien aujourd'hui, mettez une date dans votre existence de confirmation ou vraiment de conversion. Parce que peut-être ça ne s'est pas passé. Mais c'est tellement important de le faire. Et je ne peux pas vous le dire assez. Tellement ça, c'est important. Je peux vous dire, je me suis converti le 24 mai en 1950. C'était autour de 10h30 le matin. Je me rappelle parfaitement de cette date et de ce moment-là. C'est clair comme de l'eau pour moi. Et pourquoi? Pourquoi j'insiste? Parce que j'ai qu'à me reporter dans ma vie à cette date-là. Et je peux dire à Satan, écoute, tu te rappelles ce rendez-vous que j'ai eu avec le Seigneur? Tu n'as rien à faire dans ma vie. Départ. Loin. Tout ce que tu me suggères, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas changer d'histoire. Et ça, cette phrase que je viens de dire, tu ne peux pas changer l'histoire, c'est ce que nous avons dans ce chapitre. On ne peut pas changer l'histoire. J'aime beaucoup raconter la parabole de la flèche de Zénon. Zénon était un mathématicien grec qui a vécu avant Jésus-Christ. Et Zénon n'arrivait pas à comprendre pourquoi une flèche atteignait un but, son but. J'ai regardé cette flèche. C'est la même qu'il y aura là-bas dans le but. Tout le monde disait oui, on est d'accord. Alors, il prenait la flèche, il la mettait dans son arc, puis pouf, la flèche partait, elle arrivait dans le but. La moitié du reste. Puis la moitié du reste, puis la moitié du reste, puis la moitié du reste, puis la moitié du reste. Mais quand on fait le calcul du total, on n'arrive jamais au but. Et c'est la même flèche. Tout le monde regardait ça, puis disait, mais on ne peut pas comprendre pourquoi elle atteint le but. Mais elle atteint le but. Et c'est la même flèche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle atteint le but? Et c'est seulement, il y a 300 ans, même moins, qu'il y a un mathématicien qui a dit non, c'est pas la même flèche. La flèche a changé. Du moment où elle quitte l'arc, elle a changé. Elle n'est plus la même. Qu'est-ce qu'il y a dans cette flèche qui vole? Il y a une énergie qu'on appelle la vélocité. Et cette flèche, plus sa vélocité, l'amène dans le but. Le moment où cette flèche quitte l'arc, même qu'elle vole, potentiellement, elle est déjà dans le but. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est dans le but le moment où elle démarre de l'arc. Bien qu'elle ne soit pas physiquement arrivée, elle est déjà là. Vous comprenez la chose? À cause de l'énergie, de la vélocité qui est en elle. Frères et sœurs, quand nous sommes sauvés par grâce, l'esprit est l'énergie qui nous fait arriver dans le ciel. Et il n'y a rien que vous ne pouvez pas changer ça. Il est en vous et c'est lui qui va vous amener là-bas. Vous êtes comme cette flèche. Il n'y a aucune différence dans votre corps. Vous vieillissez magnifiquement bien, tous joliment, vous êtes fatigués comme tous les êtres humains, il n'y a pas de différence, mais intérieurement, votre âme, votre esprit est maintenant chargé de cette énergie spirituelle du Seigneur et vous êtes destiné maintenant au ciel. Donc, ceci dit, oh, je m'embrouille maintenant. Quand l'apôtre Paul dit ceci, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand la dernière trompette arrivera, à ce moment-là, nous serons tous dans le but. Et étant dans le but, nous serons à ce moment-là changés par le Seigneur comme lui a préparé ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, parlons un peu éternité. D'accord? Dans l'éternité, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est là, n'est-ce pas? Si j'étais dans un satellite et que je me place à 2000 années-lumière de la Terre, et avec mon télescope, depuis ce satellite, je regarde la Terre, qu'est-ce que je verrais? La crucifixion du Seigneur. Je verrais toute la scène de sa mort, sa résurrection. Notre Dieu est un Dieu qui est omniprésent dans tout son univers. Il voit tout. Il est au fait de tout. Il peut revoir votre vie depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a qu'à simplement déplacer, si vous voulez, sa présence dans l'univers. Et il peut revoir où vous êtes, où vous étiez. Nous ne pouvons pas voir ça. Mais dans l'éternité, c'est possible. Ces choses sont possibles. Donc, tout est présent dans l'éternité. Quand nous mourrons, est-ce que nous devons attendre avant de recevoir notre corps glorieux? Non. Même si sur le plan de la terre et du temps, il fallait attendre 1000 ans, que dis-je, ça n'a aucune importance. Dans l'éternité, tout est instantané, tout est là, tout est présent. Donc quand nous sommes morts, nous passons dans la gloire immédiatement. Nous recevons tout ce qui est de nous, tout ce qui est pour nous, n'est-ce pas? Nous verrons d'une manière claire, non pas le retour puisque du Seigneur, parce que ça s'est caché, même au Fils, il ne le sait pas. Mais nous verrons beaucoup de choses qui sont révélées dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que nous aurons une vue éternelle, une compréhension éternelle. Nous verrons le passé comme le futur. Nous aurons cette sensibilité-là. Donc ce sera des moments extrêmement difficiles auxquels à s'adapter. Notre âme va être vraiment sous gros stress parce que ce sera un environnement auquel on n'est pas habitué du tout. Et le Seigneur est là et c'est lui qui va nous donner, qui va débloquer, si vous voulez, les limitations de notre compréhension pour que nous puissions voir ce que lui voit. Et alors, l'apôtre Paul, lui, il peut dire, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Ce n'est pas du Nouveau Testament qu'on vous donne là. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Des questions qui sont posées et qui ne sont pas répondues dans l'Ancien Testament, mais qui sont répondues dans le Nouveau Testament. Quel est l'aiguillon de la mort? C'est la loi, n'est-ce pas? Et quelle est sa victoire? Eh bien, c'est le péché. Eh bien, maintenant, grâce est rendue à Dieu qui nous donne victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette victoire, c'est parce que Christ est mort, il a rompu la première alliance et il a établi la nouvelle alliance, que maintenant, nous sommes dans une alliance éternelle qui ne peut pas être changée. Il faudrait la mort dans des parties de nouveau. Est-ce que Jésus va être crucifié? Est-ce qu'il va remourir? Non. Est-ce que vous allez mourir alors que vous avez la vie éternelle de Christ? Non. Alors comme vous êtes parti dans cette alliance, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et c'est ainsi que ça reste. En quoi est l'alliance, la nouvelle alliance? Je vous pose la question. En quoi est la nouvelle alliance? Hein? Pardon? Elle est en Christ. Mais j'ai dit en quoi?
Par la foi.
Non? La nouvelle alliance, elle est en son sang. N'est-ce pas? Elle est dans le sang de Christ. Parce que le sang de Christ est ce qu'il a donné pour cette alliance. Il est notre époux. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? sa vie. Chers amis, sa vie. Quelle femme ici, si son mari lui donnait sa vie, pourrait dire il ne m'a pas aimé? La plus grande chose qu'on peut faire pour son prochain, c'est donner sa vie. N'est-ce pas? Christ l'a fait. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour nous. Et alors vous comprenez la dimension maintenant de la Sainte Cène. N'est-ce pas? Quand on voit cette Sainte Cène, qu'est-ce qu'on voit? On voit le sang de l'Alliance. C'est super sacré cette chose. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Et alors, quand on voit ce vin qui représente le sang de l'Alliance, eh bien, nous annonçons trois choses. La mort du Seigneur, nous annonçons l'unité de l'Église, et nous annonçons son retour, jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas? Nous nous souvenons du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et Christ lui-même a dit, je ne reprendrai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que ce soit dans le royaume. Et alors ce sera différent là. N'est-ce pas? Ça c'était assez difficile. Le retour du Seigneur peut arriver n'importe quand. Vous savez, les choses peuvent changer tellement rapidement. On a vu ce qui s'est passé en septembre 11. Et il peut y en avoir encore des choses comme ça. Ça prend très peu de choses pour basculer les empires. Ça prend très peu de choses pour former des nouvelles alliances. Pourquoi? Parce que toute notre société est fondée sur le limon de l'humanité. C'est du limon. Il ne faut pas croire que ces traités sont solides. Il n'y en a pas un qui tient. C'est du limon et tout va s'écrouler peu à peu. Ça, c'est la nature même de l'homme. C'est fondé sur l'homme, c'est fondé sur son gouvernement, c'est pas fondé sur Dieu. Et tout ça, ça va changer. Ça peut changer très rapidement, extrêmement rapidement. Et je vous dis, il faut pas un ordinateur pour le savoir. Je pense à ma famille qui a vécu deux guerres, les unes sur les autres. À même 20 ans de distance. Et ils ont vu ce que c'était. Il y a des millions et des millions et des millions de morts dans un tout petit territoire qui n'est même pas le quart du Canada. Eh bien, ils ont su ce que c'était que les alliances et l'homme et l'esprit changeant de l'homme, la traîtrise de l'homme, le mensonge, tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, rien n'a changé. Je vous promets, rien n'a changé. Aujourd'hui, les choses peuvent se déglinguer plus vite que vous pouvez l'imaginer. C'est pour ça que nous pouvons dire, nous sommes dans les derniers jours, et le Seigneur peut venir d'un instant à l'autre. Vous savez, on a vu hier soir la question des 10 vierges. Et vous savez, celles qui entendaient le Seigneur avec l'époux avec de l'huile dans leur lampe, même qu'elles se sont endormies, elles étaient confortables. Pourquoi? Parce qu'elles étaient prêtes. Êtes-vous prêts? Attendez-vous votre maître? Est-ce que vous êtes en veilleuse? Comme un chien qui dort d'un œil, est-ce que vous vivez avec un œil sur ce retour du Seigneur? Quand va-t-il venir? Peut-être aujourd'hui. Peut-être cette nuit. Peut-être demain. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va venir comme un voleur. On ne saura pas. Tout d'un coup, c'est là. Ce sera trop tard. Béni soit Dieu de ce qu'il a ainsi arrangé les choses pour que nous soyons bien plus vigilants, bien plus motivés, que nous puissions sentir l'urgence qu'il y a dans ce monde, pour appeler encore plus d'âmes à venir à Jésus-Christ, pour que ces âmes se repentent et attendent avec nous ce glorieux Sauveur qui nous a tant aimés. On va prier. Seigneur, merci pour tes promesses et l'espérance qui est devant nous. Cette assurance que tu as préparé une place pour nous et que tu viendras pour nous prendre auprès de toi, afin que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Merci Seigneur de ce que ce retour est imminent et que déjà dans nos cœurs nous pouvons anticiper ce moment où tu appelles, où tu seras autorisé d'aller chercher ton Église chérie, cette Église pour laquelle tu es mort et pour laquelle tu souffres encore maintenant. Ô Seigneur Jésus, nous te remercions parce que ce qui est dans ton cœur, nous voulons l'avoir dans le nôtre aussi. Nous voulons, Seigneur, être prêts. Veillons pour ce moment où nous entendrons ce cri, cette trompette qui nous éveillera à ce retour merveilleux et qui nous amènera dans ta présence. Seigneur Jésus, réveille nos cœurs à ton retour. Nous t'implorons cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.